BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre avenir financier qui prend le pouvoir chaque après-midi de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, on avance ensemble au rythme des marchés financiers grâce à Étienne Brac qui nous accompagne depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Rebonjour Étienne, comment ça se passe cet après-midi sur les marchés?
Bonjour à tous. Ah bah écoutez, là ça cale, vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable, qui est en train de faire une pause après deux belles séances, après un gain de 1% depuis lundi. 8109 points pour le CAC 40. Du côté de Wall Street, ça hésite également. Par contre, il y a un indice qui est sur des plus hauts historiques aujourd'hui, c'est le FTSE à Londres, avec notamment les valeurs pétrolières qui continuent de surperformer.
L'Europe est en train d'opérer et va continuer d'opérer un comeback boursier. C'est l'avis d'un de nos experts aujourd'hui, David Krug. On va challenger sur cette idée l'ensemble de nos experts. Mais l'Europe est-elle partie pour et surperformer par rapport à Wall Street dans les prochaines semaines? Un certain nombre d'astres semblent s'aligner en faveur effectivement d'une potentielle, on verra, surperformance européenne. On parlera aussi du sursaut du segment des semi-conducteurs grâce à Texas Instruments. Aujourd'hui, STM est en tête de l'indice CAC 40. Ça fait du bien après la semaine dernière qui était plus compliquée. Tesla, le titre, gagne 10%, 12% même, ça accélère, plus 12% aujourd'hui à Wall Street. Le réenchantement autour de Tesla, alors on verra si c'est amené à durer ou si c'est la flûte au serpent. Là. On verra, en tout cas Tesla aujourd'hui signe une des meilleures performances américaines. On se demandera avec nos experts si après cette publication et les perspectives, la stratégie annoncée, eh bien Tesla parviendra en bourse à ne pas un jour être considérée comme une simple valeur automobile, mais bien rester une valeur tech. C'est tout l'enjeu quand même autour de Tesla et de sa valorisation. Le réenchantement de Tesla, puis le désenchantement qui se poursuit autour de Kering, c'est la plus forte baisse aujourd'hui. Puis Wall Street, tiens, Wall Street qui peut-être un jour choisira de supprimer les heures d'ouverture et de fermeture du New York Stock Exchange. C'est une piste de réflexion. On pourrait imaginer un jour, effectivement, pourquoi pas, Wall Street coté en permanence, comme par exemple, cote en permanence, déjà le monde des cryptos, il n'y a pas de week-end dans le monde des cryptos, il n'y a pas d'heure d'ouverture ou de fermeture. Est-ce que c'est envisageable aussi? Qu'est-ce que cela amènerait ou enlèverait au marché financier traditionnel? On posera cette question notamment dans le club à nos experts à partir de 17h. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Il y a énormément de publications aujourd'hui sur le marché américain. Tesla, on en parlait avec John Passard tout à l'heure à 15h30. Le direct, c'était dans USA Today. Si vous l'avez raté, le replay est disponible. Vous pouvez consulter sur notre application BFM Business, bien sûr, et dans les replays de BFM Bourse sur Tesla. Donc également Boeing qui a publié après tant d'incidents. Boeing aujourd'hui, plutôt bien orienté. Voilà. Replay disponible, n'hésitez pas à le consulter. Étienne, ici en Europe, c'est vrai que c'est assez indécis, le CAC 40 est toujours dans le vert, mais ça se joue à pas grand-chose là.
Oui, ça s'essouffle, hein, comme à Wall Street. Hein. On était ensemble il y a une demi-heure. Boeing gagnait plus de 2%. Désormais, le titre gagne 0,9%. Visa, qui gagnait plus de 2%, réduit également ses pertes. Exception quand même pour le secteur des semi-conducteurs. On en reparlera dans un instant, qui profite au Nasdaq. Bon, nous, malheureusement, à Paris, on n'a pas beaucoup de valeurs liées aux semi-conducteurs. Et puis, surtout, on a des publications d'entreprises qui ont été mal arbitrées aujourd'hui. Regardez notamment Air Liquide. Hein, c'est quand même 5% du CAC 40 qui perd 2%, avec notamment des ventes qui sont en léger recul. Le marché n'avait pas forcément anticipé. 86 € pour la valeur. Kering perd 6%. Alors heureusement, c'est moins de 2% de la pondération du CAC 40. Donc ça sauve un petit peu les meubles. Mais la valeur est quand même à 329 €. Et puis à l'inverse, vous avez le secteur du tourisme qui est en pleine forme aujourd'hui. Regardez Accor qui gagne 2,7% avant la publication de son chiffre d'affaires demain. Vous avez Hilton, son grand concurrent, qui a publié ses résultats aux États-Unis. Le titre gagne quasiment 5%. C'est solide. Plus petite valeur, Pierre et Vacances, 10% de variation aujourd'hui avec des résultats qui sont meilleurs que prévu. Un groupe qui est optimiste pour cette année. Et puis un dernier mot encore, parce que décidément c'est le secteur qui est à la une aujourd'hui avec les semi-conducteurs. Voyageurs du Monde qui gagne 10%. Souvenez-vous, hier la valeur était suspendue. Et puis son patron était d'ailleurs sur BFM Business hier pour annoncer qu'il fait une OPRA, donc une offre publique de rachat d'actions sur 20% du capital avec une prime de plus de 10% à 150 €. Le marché apprécie. Et Voyageurs du Monde qui gagne un peu plus de 10%. Et donc le CAC 40 qui est sur une hausse beaucoup moins ferme que tout à l'heure. 0,07% de variation, 8111 points. Un dernier mot quand même sur les volumes qui, pour une fois, sont présents puisque vous avez quasiment 1,6 milliard d'euros négociés dans le CAC 40.
Et lui aussi est présent. Thibaut François répond à l'appel de BFM Business. Rebonjour Thibaut. En fil rouge depuis vos bureaux de Fastea Capital. Merci Thibaut d'être toujours en ligne avec nous. Donc, on était avec vous dans Culture Bourse aussi vers 15h50 pour parler effectivement de ce potentiel des marchés. Alors aujourd'hui, Étienne nous le disait, il y a un secteur qui se distingue à la hausse. s'intéresse quand même, c'est dans le tourisme. Bien sûr, la hausse quasi mécanique, technique de Voyageurs du Monde, mais Accor dans le sillage d'Hilton, les hôtels Hilton, belle publication, et Accor qui progresse bien. On a aussi Pierre et Vacances. On a le sentiment que malgré l'inflation, dans le secteur du tourisme, la vague reste ascendante, les courants restent ascendants en bourse, Thibault. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Est-ce que ce secteur vous plaît?
Ouais, tout à fait. C'est un secteur qui est très bien orienté. On a retrouvé des niveaux de croissance qui sont plutôt intéressants. On a aussi des sociétés qui ont fait évoluer leur modèle ces dernières années. On est sur un Accor maintenant qui est en asset light et donc qui ne tire plus d'immobilier. On a un Pierre et Vacances qui s'est restructuré d'un point de vue financier et qui aujourd'hui gagne de l'argent et il n'a plus de dette financière. Donc on est sur des modèles qui sont totalement différents par rapport à ce qu'il y avait encore il y a 5 ans, et on retrouve aujourd'hui des publications qui sont très bonnes, de la croissance, des marges qui sont au rendez-vous, que ce soit sur Pierre et Vacances ou Compagnie des Alpes, notamment sur des petites valeurs en France. Mais effectivement, la publication d'Accor qui tombe ce soir devrait confirmer un petit peu la bonne tendance qu'on a sur l'année 2024. Et en plus, on a les JO qui tombent à la fin de l'année sur Accor, et ils devraient aussi en bénéficier pour cette fin d'année 2024.
En revanche, dans la soupe à la grimace du jour, parce qu'on a quand même aussi des publications qui sont un peu moins favorables, Air Liquide. Alors on en parle d'Air Liquide, d'autant qu'énormément d'actionnaires particuliers sont investis dans Air Liquide. On a une baisse des prix de l'énergie qui, chez Air Liquide, a donc entraîné aussi une baisse des facturations. Petite baisse de ce titre Air Liquide, enfin quand même 2% de repli. On le voit, ce titre en direct là dans le mur d'image de BFM Business, moins 2%. Est-ce qu'on se dit sur Air Liquide, qui a touché récemment des records historiques, est-ce qu'on se dit que là, les choses sont amenées à se calmer avec notamment cette baisse récente des cours de l'énergie, mais en même temps c'est très volatile, et notamment les prix du gaz. Est-ce qu'on se dit qu'en bourse, l'essentiel du chemin haussier est fait, ou vous lui trouvez quand même encore du potentiel important, peut-être significatif pour la suite, Thibault?
Alors, on n'est pas vendeur d'Air Liquide, parce qu'effectivement, l'Air Liquide, on va dire, chouchoute ses actionnaires depuis des années et des années, avec des actions gratuites notamment, du dividende, de la croissance bien entendu. Mais là, c'est vrai que ça fait déjà, c'est la deuxième publication d'Air Liquide qui est plutôt décevante. Là, on a une décroissance organique assez forte sur le premier trimestre 2024. Alors, la réaction du titre est finalement assez faible, hein, moins 2%, alors qu'on fait moins 7% en croissance organique, de décroissance organique sur Air Liquide. C'est presque faible, mais pour un Air Liquide, c'est extrêmement important, parce que des moins 2, on en a pas souvent sur du Air Liquide. Donc, la publication est pas bonne, hein, faut dire les choses. Je pense que ça risque de consolider encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, peut-être pas à des vitesses aussi spectaculaires qu'on a pu voir sur d'autres valeurs du CAC 40 qui ont l'habitude de faire de mauvaises publications. Là, Air Liquide, c'est assez rare, donc le marché est plutôt clément. Mais effectivement, on attend plutôt un retour de papier maintenant sur le dossier Air Liquide. Et pour l'instant, on est neutre sur le dossier. Mais c'est vrai qu'on n'irait pas acheter du Air Liquide sur les niveaux de cours actuels.
Un petit peu prudent, donc Thibault François, 106,32€ ce titre Air Liquide en repli de 2,2%. Thibault, tout à l'heure, vous nous avez promis de nous dire s'il fallait continuer de sous-pondérer Kering dans les portefeuilles après sa publication. C'est la lanterne rouge cet après-midi, Kering, à moins 5,5%. Est-ce que vous estimez que ceux qui détiennent du Kering ont intérêt à le vendre, ou au contraire, on arrive maintenant quand même sur des points d'entrée?
Non, je pense qu'il faut toujours continuer à sous-pondérer Kering. Alors même si Kering, Étienne le disait il y a quelques minutes, Kering ne fait plus que 2% du CAC 40, mais je n'aurai toujours pas de Kering aujourd'hui dans les portefeuilles. Je pense que c'est encore trop tôt. On a absolument aucune visibilité sur l'année 2024. La dégradation quand même des marges est quand même spectaculaire. On attend entre 40 et 45% de baisse de l'EBITDA sur le premier semestre. On n'a pas de retour encore de la visibilité. Gucci est pour l'instant toujours en baisse. L'Asie pèse aussi, bien entendu, sur la croissance sur Kering. Donc toujours pas de visibilité, donc toujours pas d'achat sur Kering. Et on sous-pondère Kering par rapport à l'indice CAC 40.
Et on a regardé la capitalisation de Kering par rapport même à Richemont. Désormais, la capitalisation de Kering est quasiment deux fois inférieure à celle de Richemont. Incroyable quand même.
Oui, c'est impressionnant. Mais, ouais. Mais vous voyez encore une fois, Kering par rapport à d'autres valeurs du luxe, on est plus sur un effet mode aujourd'hui sur Kering par rapport à un effet luxe. Le luxe tient beaucoup mieux en termes de croissance, et aujourd'hui Kering se rapproche pratiquement d'une marque, on va dire plutôt on va dire mode, que d'une valeur luxe. Donc pour l'instant, c'est vrai que on reste à l'écart de Kering.
Étienne nous rappelle la tour Euronext en direct. Effectivement, dans un instant, on parlera des semi-conducteurs qui remontent la pente. Mais Étienne, vous avez repéré une autre valeur, une autre publication à ne pas rater. C'est le titre Orange cet après-midi.
Orange qui était en forte baisse, hein, quasiment 4% après la publication de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Alors c'est légèrement supérieur aux attentes, mais le groupe laisse ses perspectives inchangées pour cette année. Et puis surtout, le marché a regardé un petit peu dans le détail cette publication et a remarqué qu'en France, alors certes les ventes sont en hausse, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça se fait au prix de pertes d'abonnés, notamment dans le fixe, hein, puisqu'au premier trimestre, le groupe a perdu 43 000 abonnés fixes au premier trimestre en France. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché qui se rend bien compte que la stratégie de remontée des prix a un petit peu des limites. Hein. C'est-à-dire que Orange voulait mettre fin à la guerre des prix, a réduit également ses promotions, a augmenté ses tarifs. Et là, visiblement, ça bloque auprès de certains abonnés avec donc des pertes d'abonnés. Suite à cela, vous avez un titre qui est en recul. Souvenez-vous, Orange avait bien surperformé en début d'année. Et puis là, désormais, il ne gagne plus que 3% depuis le 1er janvier. 10,59 €, décidément, c'est dur pour Orange de sortir de ce prix de 10 €, malgré un rendement qui est l'un des plus forts du CAC 40, hein, au-delà des 6%. Mais le marché attend toujours de voir cette stratégie, notamment en termes de gains de croissance, hein, sachant que vous avez une croissance qui est toujours assez faible. Hein, quand vous regardez le chiffre d'affaires, il est en hausse de 2%.
Et ce CAC 40 qui du coup, quand même, parce qu'on a des publications sanctionnées, plusieurs d'entre elles, qui du coup a basculé dans le rouge, le CAC 40 de 0,04%. On a perdu Thibault, c'est dommage. On voulait vous interroger aussi, Thibault, sur Tesla. Bon, ben voilà. On va peut-être essayer de vous rappeler, d'ailleurs, pourquoi pas, on n'a pas fini, évidemment, de parler de cette séance très intéressante avec de très, très nombreuses publications. Étienne, vous n'hésitez pas aussi à nous rappeler, dès que vous le souhaitez, Tesla à Wall Street qui progresse de 12%. Et puis des idées en plus pour vos portefeuilles boursiers, c'est valeur ajoutée. Sébastien Feijan, depuis Demicap. Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes à l'achat aujourd'hui. Alors, c'est un achat peut-être un peu contre-intuitif, vous allez nous expliquer pourquoi. En tout cas, à l'achat sur le titre Jacquet Metal.
Oui, alors, on ne parle pas de semi-conducteurs ni d'intelligence artificielle. Hein. On est sur quelque chose qui est assez basique, hein. C'est la distribution d'acier spéciaux. Donc, on a évidemment besoin des aciers pour faire des usines et évidemment pour tout ce qui est investissement industriel dans la zone euro. Donc, la conjoncture est dégradée actuellement, les prix baissent. Et donc, mécaniquement, nous avons des perspectives qui ne sont pas excellemment positive pour 2024 et déjà en 2023, on a une assez forte baisse des résultats et des ventes.
Ce titre Jacquet Metal, donc, vous êtes acheteur sur le titre, mais voilà, des ventes, pas forcément, naturellement, pas intuitivement porteur. Si je comprends ce que vous venez de nous expliquer, qu'est-ce qu'on doit attendre après une très mauvaise année? Enfin, c'est une nouvelle mauvaise année qui se profile pour Jacquet Metal?
Ah bon, on doit attendre absolument rien, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a globalement aucune perspective positive pour 2024, hein, c'est exactement ce que le management a expliqué lors de la présentation de ses résultats annuels. Nouvelle baisse des ventes, peut-être supérieure à 10 ou 15% en organique. Nouvelle baisse des résultats forcément, puisque Jacquet Metal a un modèle qui est lié donc à des charges fixes. Mais en revanche, là, le côté positif, c'est que lorsque le cycle est baissier, la société génère beaucoup de cash, elle vend ses stocks.
Donc, ce titre, Jacquet Metal, que tout le monde ne connaît pas encore, hein, bien évidemment, Jacquet Metal, effectivement, sur lequel vous êtes acheteur, quel est votre objectif de cours? Enfin, d'abord, compte tenu de ce que vous nous dites, est-ce que vous êtes sûr de vouloir être acheteur, d'assumer une position à l'achat sur cette valeur, malgré effectivement un exercice très compliqué que vous venez de nous décrire et des vents contraires?
Alors moi, j'y connais pas grand-chose en intelligence artificielle ni en semi-conducteurs. Hein. En revanche, ce que je sais, c'est que les sous-valorisations aussi manifestes que celles qu'on peut avoir sur Jacquet Metal, elles sont assez rares et généralement, elles se règlent de manière capitalistique. Donc on sait qu'actuellement, en fait, la valeur des stocks à fin 2023 était de l'ordre de 680 millions d'euros. Et aujourd'hui, si on met ensemble la capitalisation boursière et la dette, on est inférieur à ce niveau de stock d'acier. Donc, si demain vous fermez Jacquet Metal, la valeur de son stock d'acier n'est même pas prise en compte. Donc, on est globalement dans quelque chose qui nous paraît totalement décorrélé des fondamentaux. Mmh. Et on voit en plus que le groupe est très actif sur le rachat de ses titres, avec donc un prix moyen d'acquisition de l'ordre de 18 euros depuis maintenant presque un an.
Quel est votre objectif de cours, du coup?
Eh bien, écoutez, nous on pense que si effectivement on est un peu patient, on pourrait retrouver un peu de hauteur une fois qu'on aura passé un premier semestre qui s'annonce encore compliqué. Donc nous on vise 26 euros si éventuellement l'actionnaire principal ne devait pas décider de faire quelque chose sur le capital.
Et voilà une idée diversifiante. Pourquoi pas Jacquet Metal, vous êtes acheteur avec vos équipes chez ID Midcap. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir appelé. Sébastien Feijan régulièrement à nos côtés. Thibault François qu'on a retrouvé en ligne avec nous. Thibault, cette question sur nos réseaux sociaux pour nos auditeurs et téléspectateurs, on va vous la soumettre également, Thibault. Beaucoup de publications aujourd'hui. Laquelle suivez-vous particulièrement? C'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt Tesla que vous suivez particulièrement? Est-ce que c'est plutôt Kering? Plutôt Air Liquide? Ou plutôt Boeing qui a aussi publié ses résultats? Thibault, vous suivez plutôt Tesla, Kering, Air Liquide ou Boeing dans les publications du jour?
Plutôt Air Liquide. On est obligé de, même si on n'a pas d'Air Liquide en portefeuille, on est obligé de suivre Air Liquide. Ça fait partie des grosses valeurs du CAC 40, des belles entreprises françaises. Et c'est un devoir de suivre les différentes publications d'Air Liquide au fur et à mesure.
Bon, vous êtes raccord avec nos auditeurs et téléspectateurs qui votent aussi Air Liquide à 54%. Seuls 28% de nos auditeurs et téléspectateurs suivent particulièrement Tesla. Et pourtant, Tesla, quand même, c'est au cœur d'actualité, cette publication. Et surtout, les perspectives, la stratégie annoncée pour la suite. Le titre Tesla gagne 14%, plus 14% aujourd'hui à Wall Street, après avoir reculé quand même de plus de 40% depuis le début de l'année. Est-ce que ce rebond signe un vrai réveil, d'après vous, pour Tesla, ou on est sur une forme de feu de paille, en quelque sorte?
J'ai envie de dire que Elon Musk est très très bon dans la communication. Ouais. Son groupe est en difficulté depuis des semaines, voire des mois, et il dit pas mal de mots magiques ces derniers jours ou ces dernières heures, avec un marché qui veut lancer sur l'entrée de gamme sur Tesla. Il a parlé aussi d'intelligence artificielle au cœur de ces véhicules. Donc tout ça fait un peu flamber le titre, mais c'est beaucoup de communication autour de Tesla, donc c'est un dossier sur lequel on évite d'aller aujourd'hui.
Est-ce que vous vous dites du coup que Tesla, qui a toujours été considéré, enfin depuis plusieurs années maintenant, comme une valeur tech, sera, quels que soient les effets de communication d'Elon Musk, amené à perdre son statut de valeur tech pour devenir une valeur automobile en quelque sorte, et donc une valorisation qui reste encore assez élevée aujourd'hui, amenée à encore dégonfler? C'est ça votre scénario? Ça deviendra de moins en moins une valeur tech et de plus en plus une simple valeur automobile, Tesla?
Ouais, je pense que ça, on va venir vraiment vers une valeur automobile. On s'aperçoit qu'en fait les constructeurs automobiles vont de plus en plus vers de la technologie et l'écart s'est réduit par rapport aux autres constructeurs automobiles. Oui. Donc effectivement, Tesla rentre dans le rang et effectivement la valorisation de Tesla ne mérite plus ces primes qu'ils ont sur l'ensemble des autres constructeurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on est à l'écart sur le dossier Tesla.
Ça a le mérite d'être clair. Dernière question, les semi-conducteurs, Texas Instruments aussi a publié, il y a beaucoup de publications aux États-Unis, le titre à Wall Street gagne 5% et il emporte avec lui tout le segment. Les semi-conducteurs qui la semaine dernière souffraient beaucoup, aujourd'hui signent une des plus fortes hausses sectorielles aux États-Unis comme en Europe. Et à Paris, qui progresse le plus? C'est STMicroelectronics, le titre STM gagne quasiment 7%. Faut continuer d'acheter STM.
Ouais, c'est un gros signal d'achat sur le secteur. Le secteur a annoncé depuis des mois que la croissance en 2024, il n'y en aurait pas. Tous les gros l'ont annoncé. Là, aujourd'hui, ce que vient de dire Texas Instruments, c'est-à-dire que le T1 n'a pas été bon. Par contre, ils sentent que les stocks sont au plus bas et que la demande repart. Donc, ça veut dire que la visibilité s'améliore sur l'année 2024. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur et c'est un vrai signal d'achat pour STM et pour les concurrents.
On a SMI aussi qui est salué après sa publication. Merci beaucoup Thibault de nous avoir accompagnés aujourd'hui depuis les bureaux de Fastea Capital. Le CAC 40 est toujours assez hésitant, il faut bien le dire. On tourne autour de l'équilibre à moins 0,08%. Wall Street aussi est en train de limiter ses gains. On vous rappelle aussi le chiffre du jour, les commandes de biens durables, eh bien elles accélèrent nettement à la hausse aux États-Unis. Un nouveau signe de la dynamique américaine. On va tout de suite en parler.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Grâce à Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice, on est ravis de vous retrouver. Alors voilà, chaque indicateur américain, on essaie d'y voir, de l'interpréter comme un signe enfin de ralentissement de cette économie américaine ou au contraire un nouvel éclat et nouveau signe de cette dynamique. Vous voyez plutôt dans le chiffre des commandes de biens durables un signe supplémentaire de résilience, de solidité ou au contraire, est-ce que vous y voyez, en regardant les détails, les prémices d'un ralentissement pour l'économie américaine? Patrice.
Alors non, c'est plutôt un facteur de résilience parce qu'effectivement, on a un fort chiffre qui a été alimenté par les dépenses militaires, les carnets de commandes militaires, mais aussi les carnets de commandes de l'aviation. Et quand on enlève ces deux facteurs qui sont les plus volatiles, on a, je dirais, une progression légère en fait des carnets de commandes plus traditionnels, donc qui renvoient à de l'investissement en équipement traditionnel, qui progresse légèrement de 0,2%. Donc ça veut dire que, premier point, en fait, on a des thématiques d'investissement pour les entreprises américaines qui peuvent être très forts, menés par des dépenses publiques, et je pense là au secteur de la défense, et puis traditionnellement au secteur de la technologie, au renforcement ou à l'accélération des augmentations de capacité de production, et l'équipement traditionnel, c'est-à-dire les machines-outils, effectivement, sont un petit peu plus modérés. Mais globalement, c'est une thématique, que ce soit tirée par la défense ou tirée par les nouvelles technologies, l'investissement, lui, reste soutenu sur plusieurs formes, et peut-être pas aujourd'hui l'équipement traditionnel.
Du coup, qu'est-ce qu'on se dit sur le chiffre du PIB américain? Première estimation de la croissance américaine du premier trimestre, elle sera publiée, cette première estimation, demain. Est-ce que vous attendez à un chiffre incroyable à nouveau?
Alors 2,5%, c'est un petit peu le consensus, mais c'est aussi un peu le taux minimum que l'on attend, puisqu'on pourrait très bien pointer vers 2,8-2,9%, ce qui veut dire que le ralentissement serait un petit peu en trompe-l'œil par rapport aux derniers chiffres que l'on a eu au dernier trimestre, car la consommation et la demande domestique restent globalement toujours très très soutenues aux États-Unis.
Après ce chiffre des commandes de biens durables, en tout cas le 10 ans américain continue de progresser. On est à 4,66 en ce moment sur le 10 ans américain. Le marché tape de moins en moins sur des baisses de taux et il price même à 20%, une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année de la part de la Réserve fédérale américaine. Alors 20%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. À combien vous évaluez-vous, Patrice, l'hypothèse, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed?
Pour moi, la probabilité serait beaucoup plus faible que 20%. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'évolution des taux d'intérêt directeurs de la Fed et leur calendrier. Il y a un consensus sur la croissance, un consensus grosso modo sur une inflation qui tarde à ralentir, mais je dirais il y a autant peut-être de scénarios sur la Fed sur le deuxième semestre qu'il y a peut-être d'économistes. Je favoriserais toujours une détente de deux fois qui commence en septembre des taux par la Fed, mais on peut très bien avoir simplement une fois en septembre et attendre, ou ne pas avoir de baisse du tout et attendre le mois de décembre. Donc on voit bien qu'il y a une ouverture. Aujourd'hui, monter les taux ne serait peut-être pas justifié et l'effet serait retardé. Mais peut-être que la question se posera beaucoup plus sur les conditions financières qui seraient encore augmentées si la Fed ralentissait ce quantitative tightening. Donc plus que les taux, c'est peut-être l'absence de besoin d'injection supplémentaire de liquidité de la part de la Fed. Et de toute façon, les taux ne peuvent pas baisser avant le mois de septembre.
Merci beaucoup. Patrice Gautry en direct depuis l'Union bancaire privée sur les rives du lac Léman à Genève. Le 10 ans américain donc qui se retend à 4,66. Le 10 ans français aussi monte à 3,1%, quasiment 3,1%. Le 10 ans français, on va continuer d'en parler bien sûr. Et dans un instant, c'est la famille BFM Bourse qui va se réunir jusqu'à 17h. Thibaut Prébet aussi nous accompagnera et nous parlera d'une stratégie d'investissement globale dans laquelle la bourse pourrait, pourquoi pas pour les épargnants, devenir finalement majoritaire. Pourquoi ne pas faire de la bourse un investissement majoritaire dans l'ensemble de vos placements? On va franchement lui poser la question, quitte à challenger certains préjugés, certains présupposés, on ira loin, ce sera au cœur du bullshitomètre à suivre à partir de 16h40. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille réunie jusqu'à 17h comme chaque après-midi, les équipes radio, télé de BFM Business, BFM Bourse, puis les équipes web également. Julien Marion nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Alors c'est la Sainte Fidèle aujourd'hui, la Sainte Fidèle figurez-vous. Donc on vous souhaite une bonne fête parce que vous êtes fidèle à l'émission. Depuis lundi, vous venez tous les jours, vous nous accompagnez. Donc très bonne fête Julien.
Ah, je rentabilise mon abonnement.
Et merci pour votre fidélité à BFM Bourse. Parce que vous êtes nombreux hein, dans nos équipes web. Mais Julien, vous êtes le plus fidèle d'entre tous. Effectivement, donc on tenait à le saluer. C'est la Saint-Fidèle. Bonne fête. Effectivement. Bon, le marché, lui, est pas tellement fidèle à sa tendance de début de semaine. Il était assez nettement haussier lundi, assez nettement haussier hier. Aujourd'hui, c'est plus mitigé pour le CAC 40.
Il était bien ancré dans le vert à la mi-séance. Mais ça n'a pas tenu avec l'ouverture du marché américain. Et j'ai envie de dire que c'est un peu logique parce que quand vous regardez toutes les publications du CAC 40, elles sont pas très bien reçues. On en reviendra dans le détail sur Kering, mais c'est pareil pour Orange, Air Liquide. Moi, je vois d'ailleurs que sur SBF 120 BIC qui s'en tire pas trop mal. Donc, quand les poids lourds sont mal réceptionnés, ça tire vers le bas. Et on a que ST Micro qui bénéficie de la lecture croisée de Texas Instruments que vous avez évoqué précédemment, qui porte un peu. Donc, c'est logique, j'ai envie de dire.
Effectivement, les commandes de biens durables par ailleurs aux États-Unis qui ressortent en très nette accélération, un nouveau signe de la dynamique américaine toujours aussi impressionnante. Et ce segment des semi-conducteurs, vous en avez parlé. STM est en tête du CAC aujourd'hui. Après la semaine dernière qui était très compliquée pour cette thématique, là, ça va mieux. Texas Instruments frappe un grand coup. On a écoulé les stocks, manifestement. C'est plutôt prometteur. STM est tout le segment profite des annonces de Texas Instruments. STM gagne 6,5%. Romain Dobry est avec nous, Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Comment sentez-vous l'état des forces en présence dans le marché, Romain?
C'est un niveau vraiment intéressant et un mouvement qui va se décanter probablement dans les heures à venir. On indiquait que la baisse qui s'était mise en place depuis la mi-mars, à peu près sur les indices et le mouvement d'accélération baissière qui s'était produit, avait rompu la dynamique à moyen terme. Reste qu'à court terme, après 3 semaines de baisse d'affilée sur les indices américains, 6 séances de baisse d'affilée sur le S&P et des cibles majeures atteintes comme 4957 points sur le S&P, on avait des chances de rebondir. C'est ce qui s'est passé de façon très harmonieuse sur tous les grands indices qui ont pris plus de 3% sur les indices majeurs américains ou européens. Reste que on a dans ce rebond pas beaucoup de volume, des volumes qui sont assez moyens. On n'a pas eu d'intérêt non plus du côté des marchés dérivés et du soutien acheteur de ce côté-là. Et on arrive contre des niveaux qui étaient des niveaux sous lesquels l'accélération baissière s'est produite, sont vraiment des niveaux charnières contre lesquels les vendeurs pourraient se manifester à nouveau et qui sont vraiment pivots. Alors, il n'y a pas de choses établies à ce stade encore, mais ce sont des niveaux qu'il faut surveiller et on constate que la réaction du marché est un peu à l'arrêt. Alors, on a d'un côté des acheteurs qui avaient bien acheté le marché, qui ont eu le temps de prendre du bénéfice. De l'autre, du cash disponible, on le sait. Des opérateurs qui ont eu l'opportunité de se placer en monétaire, qui peuvent peut-être trouver des arbitrages, mais ils ne se jettent pas sur le papier pour l'instant. Et en plus de ça, pour limiter le mouvement de baisse, un niveau de couverture dans les portefeuilles qui a été significativement rehaussé. Donc on est un peu bloqué sur les indices, on n'attend pas d'éléments majeurs et on penche plutôt pour une période propice à du stock picking, comme en témoignent bien les réactions suite aux publications. On a à Paris Kering qui est en bas du palmarès alors qu'STM est en haut. Et puis si on regarde les marchés américains, Alphabet, Google est en légère baisse alors que Tesla rebondit assez puissamment pour l'instant. Donc c'est plus ce genre de mouvement qu'on attend, avec un risque baissier qui est à surveiller, en tout cas qui n'est pas garanti, mais qui est à surveiller, d'autant plus qu'on a demain une très grosse journée de publication à Paris, encore des GAFAM demain soir, et puis surtout les chiffres de mensuels de l'inflation, l'indice PCE Core, qui est l'indice préféré de la Fed, vendredi.
Oui, la fin de semaine sera effectivement chargée. La publication de Meta, ne pas rater aussi ce soir après bourse. Et puis vous avez cité Tesla qui a déjà publié. Tesla à Wall Street cartonne aujourd'hui. La publication et surtout la stratégie annoncée par Elon Musk, la communication d'Elon Musk sont saluées. On y reviendra dans un instant avec la famille. Juste puisqu'on évoquait les points techniques et le potentiel technique sur les marchés européens, quels sont les prochains seuils à ne pas rater, Romain?
Alors, on a essayé de s'attaquer à la zone 8045, 8080 sur le futur CAC 40. On a même fait un petit passage au-dessus, 8102,5 au plus haut, mais on est revenu assez nettement. Pour l'instant, c'est ce niveau qu'il faudrait déborder pour neutraliser la baisse. Même si on débordait 8080 en clôture, jusqu'à 8160, on resterait dans un mouvement de neutralité. Tant qu'on est en dessous, c'est plutôt un mouvement neutre à baissier à court terme. La première alerte, elle serait donnée sous 7981. 7925 serait l'alerte de court terme, mais là on aurait un risque de sell-off, de retour dans le mouvement baissier avec des accélérations en direction de 7873, pourquoi pas 7656 si on cherchait des extensions. Sur le S&P, c'est 4957 en bas et la zone 5110, 5147 en haut, on n'y est pas tout à fait arrivé. Sur le Nasdaq, en revanche, Nasdaq 100, c'est très propre, c'était 16970 en bas, niveau sur lequel on a bien rebondi et on bute contre 17642. Niveau au-delà duquel il faudrait se réinstaller pour neutraliser ce mouvement de baisse. Pour l'instant, c'est en délibéré.
Et alors, on le disait, il y a un secteur qui cartonne aujourd'hui grâce à Texas Instruments. Vraiment, et les stocks qui maintenant sont écoulés, Texas Instruments, Wall Street gagne 6%. Et à Paris, STM, ça ruisselle. Hein, STM en profite aussi et gagne 6,5%. Ce titre STM, cette hausse, ce rebond aujourd'hui d'STM, est-ce que vous pensez qu'il est amené à durer, Romain?
Oui, on le pense. On l'avait évoqué STM la semaine dernière en disant que c'était qui tout double ce niveau de 37,10 qui était la borne basse d'un canal haussier au sein duquel STM évolue de façon très harmonieuse depuis décembre 2018. C'est dire l'importance de ce niveau-là. Il ne fallait pas s'installer en dessous. Elle a fait un petit passage en dessous de ce niveau en fin de semaine dernière, mais elle le réintègre puissamment avec du volume, avec du soutien. Elle passe une première résistance intermédiaire à 38,90. Donc pour l'instant, on a en mire un premier niveau à 42,88. Et si cette résistance majeure était débordée, on pourrait chercher des extensions en direction de 48,74 au moins. Le mouvement a l'air de s'installer, de se mettre en place. Il va falloir quand même reconstruire, mais c'est plutôt positif. Évidemment, si on repassait sous 37,10, tout ce scénario serait invalidé et on dégagerait du titre sur lequel on a décidé de se repositionner.
Romain Daubry, merci beaucoup Romain. Bourse Direct, on vous rappellera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35. Wall Street mitigé, le CAC 40 en petite baisse de 0,1%. Alors il y a un secteur qui cartonne aujourd'hui, c'est Étienne qui nous a alerté là-dessus, Étienne Braque depuis la Tour Euronext, secteur du tourisme. Hilton a annoncé ses résultats et Hilton voit pour la suite toujours une très très forte demande pour les voyages. Le titre Hilton gagne à Wall Street 6%. À Paris, on a Accor bien orienté, Accor qui doit publier dans les prochaines heures d'ailleurs son chiffre d'affaires, plus 2,5% Accor. Et puis Pierre et Vacances gagnent plus de 9%. Le segment du tourisme reste extrêmement attractif. Thibaut François pour Fastia Capital nous disait même rester très acheteur. Très positif, très optimiste sur le potentiel de cette thématique boursière. Il nous l'a dit vers 16h tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. N'hésitez pas à consulter le replay sur notre application BFM Business. Quelle heure est-il ? 16h38. Le moment, Julien, de la question du jour.
Chaque jour, ben oui.
sacro-saint moment où on vous interroge sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, au milieu de toutes ces publications, on vous demande laquelle de ces nombreuses publications du jour suivez-vous particulièrement ? Est-ce que c'est Tesla que vous suivez en priorité ou plutôt Kering, voire Air Liquide, pourquoi pas, ou encore Boeing ? Quatre options. Et vous avez été nombreux à voter. Vous, Julien, laquelle de toutes ces publications avez-vous particulièrement suivi ?
Alors, je distingue ce que je suis de ce que les investisseurs suivent. Je pense qu'Air Liquide est quand même la valeur de fonds de portefeuille par référence. C'est difficile de ne pas la suivre quand on investit dedans. Mais nous, pour tout vous dire, Air Liquide, on n'a pas encore écrit dessus. Je pense qu'on n'écrira pas dessus parce que le trimestre, il est un peu timide. Il est tout juste en ligne avec les attentes. C'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave du tout. Ça va s'accélérer par la suite. Mais vous voyez, il n'y a pas une réaction démesurée.
C'est la baisse des prix du gaz qui entraîne une baisse des facturations et donc une publication moyenne.
Oui, c'est ça.
Le titre perd 2% quand même.
L'effet
moins
2. Ah oui, moi je l'avais en baisse de 0,7. Ouais, c'est pas dramatique. Hein. Circuler, on passe à autre chose. Moi j'ai surtout suivi Tesla et Kering. Et je vais vous répondre plus Kering parce que j'ai écouté la conf. Je suis factuel là. Hein. Mais j'ai pas mal regardé Tesla aussi, mais voilà, Kering très légèrement.
Enfin, Tesla quand même, plus 13%, Tesla, c'est pas mal.
Non, mais les deux, j'ai
la stratégie dans l'intelligence artificielle, et puis surtout les nouveaux véhicules à bas prix qui, dont la production devrait sans doute être avancée. 13% de hausse Tesla, qui perdait 40% depuis le début de l'année. Vous vous dites pas que c'est le début d'un vrai réveil?
Non, mais alors, ce qu'a dit Musk, c'est qu'en fait, les nouveaux véhicules devaient être produits à partir du second semestre 2025. Lui a dit que ce sera début 2025, voire fin 2024. Oui. En fait, je pense que pour ce que le marché achète, c'est l'impression que Tesla se réveille. C'est Dan Ives qui dit, enfin, Elon Musk est un adulte in the room, donc c'est un adulte dans la pièce. Enfin, il prend les bonnes décisions. C'est ça.
Est-ce que Tesla parviendra, valeur tech hein, depuis des années, est-ce que Tesla parviendra à ne pas un jour être considéré comme une simple valeur automobile ? C'est pas gagné, parce que la concurrence, elle monte en puissance aussi.
Moi, je suis vraiment... désolé, mais alors là, pour le coup, j'ai un avis totalement divergent de vous. Oui. Je pense que si Tesla arrive à avoir une telle valorisation et des tels multiples, c'est qu'ils sont considérés en partie, et à juste titre, à mon humble avis, comme une valeur tech. Ils sont déjà considérés comme ayant deux jambes, une auto, une tech. Par contre... ce qui est vrai, c'est que c'est la jambe auto qui prédomine. Est-ce qu'à l'avenir, ils vont pas devenir un groupe de logiciels qui vendra cette technologie avant tout à d'autres constructeurs ? C'est plutôt ça la question. Et à ce moment-là, ils ont plus de multiples boursiers. Mais pour moi, ça reste une valeur auto avant tout. Mais avec une forte composante tech qu'on ne trouve pas chez les autres constructeurs.
D'accord. Tesla, donc, vous avez été 28% dans cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. 28% estimé que c'est Tesla qu'il faut suivre particulièrement aujourd'hui dans les nombreuses publications du jour, mais c'est Air Liquide qui arrive en tête parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'investisseurs particuliers investis dans Air Liquide et qui suivent donc en priorité Air Liquide. Ouais. Aujourd'hui, à 54%, vous avez voté, comme Julien d'ailleurs, Air Liquide. Effectivement. Puis Kering, vous avez été 11% à voter pour Kering. Voilà, parmi toutes les publications, laquelle suivez-vous en priorité ? Seulement 11% d'entre vous avez voté Kering. Remarque, c'est pas un hasard si Kering, baisse. Il y a de moins en moins d'investisseurs. En tout cas, le titre attire très très peu. Kering aujourd'hui recule encore de plus de 5% sur le marché parisien après sa publication. Pourtant, le groupe avait déjà averti il y a quelques semaines. Même en ayant averti, la publication a fait l'effet d'une douche froide.
Oui, d'ailleurs, la publication, elle est en ligne avec l'avertissement. Hein. Les ventes globales, elles baissent de 10% en données comparables. Et pour Gucci, on est à moins 18%. C'est à peu près ce qu'ils avaient dit. Hein. On est vraiment dans l'épaisseur du trait. Alors du coup, vous allez me demander, mais pourquoi ça baisse, Julien ? Mais en fait, c'est parce qu'au-delà de la publication, Kering a donné des informations plus précises sur ses perspective. Et notamment, comment est-ce qu'ils voient la rentabilité évoluer au premier semestre ? Eh bien, ça manque pas. Pour eux, ils estiment que le résultat opérationnel courant, il chutera de 40% à 45% sur un an. Hein. C'est quand même assez impressionnant.
Ça fait quand même mal.
Et d'ailleurs, ce que nous disent Stifel et Deutsche Bank, c'est que c'est quand même plus fort que ce que pensaient les investisseurs.
Comment on explique une telle baisse ? Et de telles perspectives négatives, quand même.
Alors, ça m'a un peu mal partout, dans l'ensemble, on va dire, chez Kering, mais l'homme malade, ça reste Gucci. Hein, c'est ce qui baisse le plus. Or, Gucci, c'est à peu près 70% du résultat opérationnel courant en 2023. Or, comme je l'ai dit juste avant, les ventes de Kering, elles plongent au premier trimestre. Et la direction, elle l'a dit hier, hein, il n'y a pas de tendance qui va s'infléchir au deuxième trimestre. On sera à peu près sur la même tendance. Donc, vous avez des ventes qui chutent. Et avec ce qu'on appelle le levier opérationnel, forcément, le résultat baisse. Le levier opérationnel, c'est simplement le fait que quand vous avez des revenus qui chutent, qui varient, les résultats, ils varient plus fortement. D'autant que, dans le cas de Gucci, les revenus baissent, mais en plus, ils continuent d'investir pour soutenir la marque. Donc, forcément, ça crée des dépenses et moins de revenus. Et le résultat, il baisse. C'est aussi bête que ça. Surtout que pour l'heure, en fait, Gucci, ils veulent élever la marque. Oui. Mais pour l'heure, ils sont pas sur nos créneaux. Notamment en Chine. Je vais vous expliquer. La directrice financière, elle a dit qu'en Chine, il y a une polarisation à la clientèle. Ça veut dire que c'est les grands clients, très chers, très fortunés, qui tire à l'eau, et les gens en entrée de gamme. Or, Gucci, d'après la directrice financière, c'est pas assez haut de gamme et c'est pas assez abordable. C'est juste au milieu, comme il faut pas.
Effectivement. Kering en bourse, donc nouveau repli de plus de 5% en ce moment. On a regardé tout à l'heure la capitalisation de Kering. Elle est quasiment deux fois inférieure à celle de Richemont désormais. Kering est en train de devenir en bourse un nain du luxe. Enfin,
et dix fois inférieure à celle de LVMH.
Effectivement, ça devient spectaculaire. Kering en bourse, ça dérape avec des sorties de piste. Franchement, Kering, c'est pour les investisseurs, c'est presque du karting. Kering, karting, de... Du coup, Julien, Kering est-il condamné à errer dans les limbes boursières? Est-ce que cette sous-performance va durer?
Pas forcément. D'ailleurs, j'étais un peu surpris ce matin quand je regardais les notes. UBS, Royal Bank of Canada et Deutsche Bank sont à l'achat quand même. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce qu'on attend sur Gucci et sur Kering, c'est le rebond du second semestre. Notamment parce que sur cette période, vous allez pouvoir voir un petit peu la patte de Sabato De Sarno, le nouveau directeur artistique, qui doit donc élever cette marque. Comment cette patte, ces nouvelles collections, elles vont être accueillies? Là, pour le moment, elles sont arrivées dans les magasins, mais un tout petit peu. Ce que nous a dit la directrice financière, c'est qu'à fin juin, donc en juin prochain, on n'aura que 30% des nouveautés qui seront disponibles en magasin. Et ça va monter progressivement au troisième, quatrième trimestre pour arriver à 100%. Et c'est donc là qu'on verra si l'accélération se matérialise pour Gucci, si ça prend. Et si ça prend, c'est vrai qu'au vu de la valorisation de Kering, eh ben on peut avoir un gros rebond. Mais ça reste hypothétique, évidemment.
Des idées de valeur, vous en cherchez, on vous en apporte chaque jour dans Valeur Ajoutée. C'était à 16h10, Jacquet Métal, Idemica Peta, l'achat a beaucoup d'arguments d'ailleurs. Retrouvez le replay, n'hésitez pas, bfmbourse.com. Voici venu l'heure du bullshitomètre, mesdames, messieurs. Il est 16h44, chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue ou des effets de mode un peu trop installés. C'est Thibaut Prébé qui nous accompagne aujourd'hui pour Arbevel. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Oh, la bourse, c'est les riches qui en profitent. Il faut davantage taxer les revenus boursiers, du coup. On entend beaucoup cet argument, mais vous dites bullshit! Vous foudroyez. L'idée que la bourse, c'est pour les riches et qu'il faut donc davantage taxer les revenus boursiers. Pourtant, il faut quand même reconnaître que la valeur du travail, bien plus que le capital, cette valeur travail même, apporte de la valeur.
Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette espèce de logique qui est très politique, hein, qui est très française, d'essayer d'opposer le travail et le capital et de dire c'est les travailleurs qui bossent, le capital ça sert à rien et c'est des parasites. Ce qui est un résumé un peu facile de la situation. Pour autant, et les grands patrons servent à rien aussi. Pour autant, si on regarde sur 5, 6, 10 ans, c'est pas complètement clair de se dire que tous les salariés de Volkswagen sont débiles mentaux pendant que ceux de Stellantis sont tous des génies. Et pour autant, il y a des trajectoires qui sont complètement opposées. Donc il y a quelque chose qui va un peu plus loin que ça. Deuxième point, c'est qu'on a besoin que les gens investissent pour que les sociétés aient du capital. Si on arrive à faire des champions aux États-Unis énormes, et qu'en Europe, on n'y arrive pas, c'est pas parce que tous les salariés américains sont déments et qu'en France, personne ne fout rien. C'est parce qu'on a du capital qui permet d'investir, de faire de la R&D, d'essayer de créer assez rapidement des champions et décourager tout le temps l'investissement en action en disant qu'en gros, c'est un truc de parasite. Je pense que c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement français. Et là, il y a vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Cette espèce d'idée que la bourse est une énorme manne est complètement délirante. Enfin, je vous rappelle que pour quelques valeurs qu'on cartonnait, il y a des champs de ruines sur les petites et moyennes valeurs aux États-Unis. C'est vrai aussi en Europe. Je vous rappelle que beaucoup de boursicoteurs français adoraient s'amuser avec les small caps, en particulier par exemple les biotech, où il y a eu un nombre de cartons colossal. Et ces gens qui ont perdu leur argent, l'idée qu'ils se gavent facilement, sans risque, c'est pas exactement leur ressenti. Des gens qui ont parié sur l'Asie ces dernières années ont perdu énormément d'argent. Donc voilà, résumé en disant il y a 2-3 valeurs qui ont explosé, ça veut dire que c'est facile et que en fait tous les gens qui gagnent en bourse se gavent et qu'il faut juste aller leur prendre une partie de leur pactole. Je pense que c'est une vision qui est simpliste et totalement fausse de l'investissement.
Julien.
Surtout que c'était si facile que ça, on le ferait tous. Hein. Et que les nominaux ne sont pas assez élevés pour décourager les petits investisseurs. Bref. Mais concernant la fiscalité, on dit souvent que la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, a permis de baisser les prélèvements et que donc ça a permis aux actionnaires de vraiment s'enrichir. Vous êtes d'accord avec ça?
Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que déjà, il y a toujours eu du PEA, l'assurance vie, d'autres moyens de payer moins. Ce qui fait qu'en fait, l'investissement en compte-titres simple était même plus possible, parce qu'à un moment, ça coûtait trop cher et ça l'est redevenu. Il ne faut pas oublier que l'investissement, on peut gagner et perdre. Et donc, quand on perd, on n'a pas d'économie d'impôt ou de cadeau, sauf évidemment à compenser d'autres gains. Mais donc, si on perd, on perd. Voilà. Et si on gagne, il faut en payer une partie. Et si c'est 50 en cumulant les prélèvements et les impôts quand vous gagnez et que vous enlevez rien quand vous perdez, à un moment, la somme, elle est beaucoup trop négative pour motiver les gens. Et pour autant, on a plein d'entreprises qui ont besoin d'argent. L'entreprise, elle trouve que les salariés, que les travailleurs sont top, mais il faut quand même les recruter à un moment. Et quand on fait des projets, quand on fait de la recherche et développement, il faut les payer avant que ça produise. Donc il faut avoir de l'argent d'avance. Et si cet argent, il n'est jamais mis à disposition, on peut dire que c'est le rôle de l'État, mais c'est des montants beaucoup trop importants, il n'y a rien qui se fait. Et donc il faut arrêter de se toujours décourager l'investissement. Et c'est vrai qu'en plus, avec cette idée que tout le monde est venu maintenant sur le non-coté, entre ce non-coté et les très grosses boîtes qui sont soi-disant hyper faciles, enfin on en a vu plein qui étaient des géants qui sont devenus des semi-poubelles, bah, il n'y a pas grand-chose. Et pour autant, essayer de culpabiliser cet investissement dont on a énormément besoin, et cette culture de l'investissement, c'est ultra dangereux. Et ça, je pense qu'il y a un truc. Et là-dessus, la fiscalité sur la flat tax, faire quelque chose de simple et de lisible est un vrai apport. Et se dire, c'est rien, c'est gratos, je pense que ce n'est pas vrai. Et dans d'autres pays, d'ailleurs... Après, tous les pays sont différents. Il y a des pays type Suisse où on ne fiscalise pas les plus-values, mais on fiscalise beaucoup le rendement. Il y a des pays comme le Portugal où c'est l'inverse.
Mais la flat tax à 30% en France, elle nous situe comment par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes de taxation, de prélèvement sur les revenus boursiers?
Globalement, on est revenu dans quelque chose qui est plus près de la norme. Le problème, c'est que comme chaque pays a ses niches, ses moyens d'éviter, etc., c'est des comparaisons qui sont hyper compliquées. Mais ce qui est sûr, puis il y a ces abattements en fonction de ses durées, en fonction des pays. Mais ce qui est très clair, c'est que il faut sortir de l'idée que l'investissement n'est pas risqué. Il est risqué, donc il doit être valorisé. Donc certes, quand il rapporte de l'argent, il doit créer une contribution, mais il faut pas oublier que cet argent a souvent déjà contribué avant d'être placé. Et il faut ensuite accepter l'idée que il faut pas non plus qu'on crée une telle asymétrie entre le gain et la perte que plus personne n'a envie d'y aller. Et ça, c'est quand même un sujet.
Mais l'argument des anti-bourses, c'est de dire, oui, l'argent que les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou grands investisseurs, riches ou pas riches, c'est que cet argent, s'il allait ailleurs, serait peut-être plus utile.
Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que en fait vous avez cette idée qui est une idée ancienne de dire si vous consommez ça fait des petits, et si vous épargnez ça reste sur un compte, ça fait rien. Et ça c'est quand même intéressant, mais à un moment l'État il a une dette, faut quand même la financer. Donc si personne ne vient financer l'État, c'est quand même un vrai problème. Donc certes c'est pas de l'argent qui est consommé, mais c'est quand même de l'argent dont on a besoin. Les entreprises, elles ont besoin de lancer des projets. On a des sociétés américaines qui ont des budgets de R&D en milliards de dollars. En milliards. Et c'est ça qui fait qu'ils trouvent des trucs et qu'ils nous éclatent et qu'ils font OpenAI. Cet argent, il est très utile. Si les gars consommaient uniquement au lieu de le mettre sur la table, ils seraient pas là. Donc c'est vrai que flécher vers l'épargne utile, et c'est des choses qui sont tentées avec des coûts du capital améliorés, des aides par exemple pour l'assimilement des valeurs vertes, dans les petites valeurs, c'est très important pour essayer de s'assurer qu'on va vers des choses qui sont un peu plus productives que simplement prendre une rente. Mais la réalité, c'est que c'est un investissement qui n'a rien de parasitaire. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez bien que quand vous avez vos Grecs qui consommaient plein d'argent, plein plus que ce qu'ils gagnaient, on venait les engueuler en disant qu'ils étaient malades et que les Allemands leur tapaient dessus. Et quand on épargne, on vous dit que c'est très mal d'épargner, il vaudrait mieux consommer. Il y a un moment, il faut aussi pouvoir faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Et je pense que le flécher vers de l'investissement risqué qui est productif, c'est important.
Alors, on comprend l'intérêt de la bourse pour l'économie, pour les entreprises. Maintenant, pour l'investisseur, pour l'épargnant, pour le particulier, pour nous tous citoyens, on ne peut pas, comme ça, rayer d'un trait de plume l'idée que, effectivement, la bourse, elle sera plus utile pour créer de l'effet de levier, de la richesse et du patrimoine à terme à celui qui a les moyens d'investir beaucoup en bourse que pour celui qui a les moyens de mettre à peine 20 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de ce point de vue, la bourse est plutôt un outil utile aux riches qu'à quelqu'un, qu'à ces couches de la population qui ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts et qui ne pourront pas investir grand-chose sur le marché.
Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que si vous enlevez la bourse, que plus personne ne gagne d'argent, les plus pauvres sont pas moins pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aide personne. En fait, vous avez juste moins de création d'emplois, moins de jobs. Et en fait, on a tous intérêt socialement, sociétalement à ce qu'il y ait moins de chômage, à ce qu'il y ait plus de création d'entreprises. C'est-à-dire, on est dans des pays où on est en train d'éradiquer le chômage dans énormément de zones, énormément de bassins d'emploi pour une raison simple, c'est que la démographie s'est effondrée et que donc, on a besoin. Mais on voit bien que c'est quand même mieux. C'est-à-dire que si les gens ont un job, c'est quand même mieux. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait des entreprises qui se lancent, qu'elles aient un accès au capital, qu'elles puissent lancer des projets, qu'elles puissent recruter. Donc, cette idée que c'est aide les riches, oui, c'est sûr que ceux qui investissent, ils investissent pour eux. Mais cette idée, on va pas aller dans le ruissellement, qui est une hypothèse dont on sait qu'elle a des côtés un peu bidons en disant ça rend service à tout le monde. Mais la réalité est que les entreprises ont besoin de pouvoir se financer en capital et en dette pour investir, pour créer des emplois. Et que ça, c'est nécessaire à tous. Et que si on dissuade ça, on aura des économies qui ressemblent à des économies avec peu d'investissements, comme ont été par exemple les pays pauvres de l'Europe dans des périodes de crise, Europe du Sud particulièrement, pendant qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup d'investissements et qu'on avait des économies qui fonctionnaient très bien. Mais je veux dire, on est mieux avec des taux de chômage à 2 à 3 qu'avec 15. Donc il y a un moment où ça a aussi un intérêt que les entreprises puissent se financer et lancer des projets.
Vous sentez que la bourse attire un peu plus les particuliers, notamment les jeunes générations, où ils sont juste crypto à fond et la bourse c'est un truc pour les boomers? Comment est-ce que là-dessus, chez Arbevel, vous sentez l'évolution des...
Ouais, ça va vite, parce qu'il y a quelques années, on avait cette idée qu'il fallait faire que des valeurs vertes, que c'était l'avenir, que c'était le plus important. Puis la guerre en Ukraine, tout le monde s'est rendu compte qu'au final, le pétrole et les armes dont plus personne ne voulait, c'était finalement bien. Et même peut-être pour certains ESG, c'est-à-dire que l'idée de se défendre était peut-être quelque chose qui avait un rôle sociétal qui était...
Pour avoir la paix, prépare la guerre.
...significatif. Et donc c'est vrai que du coup, ces repères évoluent très vite. Et avec effectivement ces intérêts en crypto. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une évolution de l'investissement qui était un truc... presque éthique qui est devenu un truc très vilain, que les grands patrons sont très vilains. Alors, faut pas être non plus dans la caricature. Il y a aussi le sujet, effectivement, de rémunérations qui sont parfois délirantes, qui ne sont pas antagonistes de pouvoir assumer le fait qu'il y a des patrons qui valent beaucoup plus que d'autres. Mais pour autant, l'idée qu'il y a des limites à tout a un sens. Mais il est vrai que il y a une remise en question de l'intérêt avec cette idée que quelqu'un qui gagnerait beaucoup d'argent en finançant l'économie serait un parasite, qui est quelque chose de très dangereux.
Dangereux, c'est vrai, vous l'avez répété, vous êtes inquiet. Ça fait plusieurs fois que vous répétez, c'est dangereux. C'est
oui, parce qu'on voit dans ce système-là qui en fait nous autodétruit. C'est-à-dire que l'idée que les géants de la tech, de la croix,
ce qui vous embête, c'est
en Chine, aux États-Unis, nous idée... regardent en disant les riches sont vilains, ça ne personne.
Et ce qui vous embête, c'est que cette idée, elle monte en puissance. Elle est très populaire.
Ouais, elle monte en puissance, mais vous savez, vous avez la même chose sur d'autres segments. Si on prend la guerre entre la Chine et les États-Unis sur le front économique, bon, bah, c'est populaire aux États-Unis de taper sur les Chinois, ça aide personne, et toutes les boîtes américaines se disent, moi, ça m'aide pas que je me fasse plomber en Chine parce qu'on vient taper là-dessus. On a tous un peu nos marottes politiques qui ont des répercussions. Mais c'est une marotte dangereuse.
Je sens que Julien,
l'idée que la bourse enrichit surtout les riches, très sincèrement, on a une caisse de résonance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et notamment de la part des politiques qui finalement, ils ont raison, ils jouent finalement leur musique à leur... pour des raisons électorales, c'est leur job, j'ai envie de dire, mais elle existait déjà auparavant, sincèrement.
Bien sûr.
Les années 90, le patron de PSA, il se faisait démolir.
Et il devient de moins en moins rationnel de contourner la bourse dans ses investissements. Je vous demande ça, par exemple, par rapport à l'avenir des retraites. Voilà, je prépare ma retraite. Est-ce que, préparant ma retraite, je dois porter une idée, avoir une opinion négative de la bourse, ou au contraire, je dois apprendre à me dire que la bourse est mon allié, voire sera ma bouée de secours?
Alors c'est vrai qu'il y a un côté tout à fait contradictoire et intéressant de dire que en bourse tout le monde se gave avec ses royal au bar en faisant rien, et qu'en même temps il ne faut surtout pas que les retraites soient en partie capitalisées. Ce qui est quand même une contradiction qui est totalement étonnante, puisque a priori si on se gave facilement, on aurait tendance à dire qu'en ayant 40 ans devant soi, ça paraîtrait pas idiot de placer l'argent comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est rentré dans une phase d'effondrement démographique, et où donc les rapports entre les actifs et les retraités, le taux de dépendance on peut appeler, va se dégrader tout le temps. C'est vrai qu'en retraite par répartition, on voit bien qu'on a un problème qu'on essaye de nier et qui augmente à chaque fois, et que l'idée que chacun puisse avec son travail préparer sa propre retraite a quand même plus de sens. Et on l'a vu au Japon, c'est-à-dire qu'on a eu cette idée que c'est pas grave, chacun aurait sa retraite, et puis on se termine avec des gens qui vivent chez leurs enfants et chez leurs petits-enfants parce que on n'a pas de quoi financer les retraites si le nombre de retraités augmente trop. Donc la notion de dire qu'il y a évidemment un besoin de répartition, en particulier parce que la notion de solidarité est une notion clé à laquelle moi je suis extrêmement attaché, mais qu'en même temps ajouter une partie de capitalisation pour essayer de travailler sur ces problématiques de ratio de dépendance et de dégradation du solde retraité versus le solde actif est quand même probablement quelque chose d'assez obligatoire et auquel il faut réfléchir sans caricature, sans posture, mais avec l'idée qu'il y a probablement besoin d'un peu de tout et que on n'est peut-être pas forcément dans un blocage psychologique, psychorigide qui est très constructif en Europe sur ce sujet.
Thibaut Prévé en campagne électorale et en tournée, bien sûr, dans toute la France. Thibaut pour Arbevel. Vous restez avec nous, il nous reste 2-3 minutes en famille, jusqu'à quasiment 17h. On va aborder le facteur X maintenant. Vous savez, ces posts que vous... publié sur les réseaux sociaux, le réseau X, le réseau LinkedIn, on vous suit, on vous scrute, et chaque jour, effectivement, on met en avant un poste à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce poste qu'on a sélectionné, il est signé Jeroen Bokland. À propos, du Bitcoin et de la Suisse, le Bitcoin sera peut-être bientôt, dans le bilan de la Banque Nationale Suisse, on verra. En tout cas, c'est le secret espoir, Julien, d'un groupe de Bitcoiners qui espère bien obtenir le nombre de signatures nécessaires pour organiser un référendum, une votation en Suisse sur, le Bitcoin, pourquoi pas un jour la Banque Nationale Suisse qui achèterait, qui détiendrait du Bitcoin.
Oui, il y avait eu une première initiative qui n'avait pas marché en octobre 2021. Donc à voir si ça peut marcher. Maintenant, c'est vrai que la dynamique est quand même positive pour eux parce qu'avec la démocratisation, parce qu'il y a quand même une démocratisation du Bitcoin, ça, il ne faut pas le nier. Avec les ETF, on en parle plus, on est quand même plus averti sur le Bitcoin. Peut-être pas dans toute l'univers de toutes les crypto-monnaies, mais le Bitcoin, oui. Mm-hmm. Donc à voir si ça marchera. Après, l'idée comme quoi les banques centrales achètent de l'or dans leurs réserves et que le Bitcoin, c'est une valeur refuge comparable à l'or, personnellement, je n'y adhère pas totalement parce qu'on a vu récemment qu'en fait, son rôle de valeur refuge était limité. Lors des tensions Moyen-Orient, l'or a continué de progresser alors que le Bitcoin, lui, a chuté.
Une
correction. Ouais. Donc, ça veut dire que le Bitcoin n'est pas tout à fait une valeur refuge et n'est pas tout à fait fonctionne pas tout à fait comme un autre marché. Donc, à voir si les arguments que mettent en avant ce groupe, eux, ils disent que ça permettrait à la Suisse d'être davantage neutre.
Effectivement, c'est l'argument des pro-Bitcoin qui veulent que la Banque nationale suisse s'investisse dans le Bitcoin, en achète, ce serait un gage supplémentaire de neutralité. C'est l'un de leurs arguments. Vous l'achetez, cet argument, ou vous le jetez, en l'occurrence, Thibault?
Ouais, je passe mon tour. On a des experts sur ce sujet, en particulier blockchain chez nous, ou la crypto, c'est toujours un truc que j'ai jamais rien compris, sur lequel je me trompe à chaque fois. Donc, vous pouvez peut-être lancer une pièce chez vous, ça vous donnera un avis qui, à mon avis, est plus qualitatif que le mien.
Il sort sa carte joker.
C'est intellectuel, ça vous honore, hein, vraiment.
Non, mais honnêtement, le problème, c'est que on est dans des marchés où il y a toujours deux sens. Donc, on a quand même, en ayant un avis, 50% de chance d'avoir raison la plupart du temps. Donc, c'est vrai que c'est tentant. Mais je me sens pas sur ce sujet pouvoir vous proposer une valeur ajoutée.
Les fans de Bitcoin disent, si le Bitcoin n'a pas servi de valeur refuge quand il y a eu les énormes tensions là avec l'Iran il y a à peu près une dizaine de jours, si le Bitcoin n'a pas été autant acheté que l'or, c'est parce que le Bitcoin, c'est plus que de l'or. Il faut arrêter de le comparer à l'or. C'est encore plus que l'or. C'est ce que disent certains Bitcoin maximalistes qui expliquent ainsi que le Bitcoin n'est pas réagi comme l'or. Ben voilà.
Bon, bah 50-50, hein, comme disait-il.
Oui, chacun ça va exactement, et chacun voit midi à sa porte en l'occurrence. Thibaut Prébé, merci beaucoup Thibaut de nous avoir accompagnés. Arbevel, régulièrement à nos côtés. Merci Julien. Merci Julien. Et donc très bonne fête. Vous nous avez été fidèles. Depuis lundi, vous nous accompagnez dans cette famille, voilà, jour après jour. Merci beaucoup, c'est la Saint-Fidèle aujourd'hui, donc vous êtes le plus fidèle d'entre tous. Salut Julien. Salut Nara. À demain, peut-être, pour de nouvelles aventures. Le CAC 40 est en léger repli, moins 0,1%. On va mesurer dans un instant, avec nos coéquipiers du club, le potentiel pour la suite sur les marchés. Puis cet article sur bfmbourse.com, notre site internet, cet article consacré à Voyageurs du Monde qui cartonne plus 10% après l'annonce du rachat d'actions de 20%, à hauteur de 20% donc de ses propres actions. BDM rachète 20% de ses actions, le titre qui s'aligne. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.